Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, saison 4, épisode de 50 de ce lundi 20 mars. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Émission fort intéressante aujourd'hui. Nous aurons des invités de choix. Premièrement, de la presse, nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard.
Salut, comment vas-tu?
Ah, ça va très très bien. Nous avons Simon-Olivier Laurent. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Et nous avons Philippe Quentin.
Salut tout le monde.
Un trio de choix de la presse aujourd'hui. Et tout ça pour accueillir le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Cicchini, qui est avec nous. Salut Mario.
Bonjour. Bonjour, messieurs. Il faudrait quand même dire le futur commissaire. Commence pas avant le 8 mai.
Parfait. Le futur commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a fait connaissance pour une énième fois avec les médias montréalais, parce que on le sait avant, Mario, je tiens à le préciser aux gens, on a eu la chance de se connaître à la radio à l'époque. Tu étais patron de Corus dans le domaine de la radio, tu as été président des Alouettes de Montréal, et là j'ai pris l'initiative de te tutoyer. Mais est-ce que c'est correct si je te tutoie?
C'est amplement correct, s'il vous plaît.
Parfait, numéro un. Donc, on peut partir de cette façon-là. Tu seras Mario Cicchini, le prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Messieurs, si vous le voulez, je vais enchaîner avec la première question. Est-ce que tu te fais l'idée que tu vas être commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec?
Écoute, je suis pas sûr. Effectivement, je prends la mesure et l'ampleur du mandat à chaque jour. Malheureusement, dans le contexte, évidemment, on sait que les derniers mois, dernières semaines ont été excessivement difficiles en ce qui a trait, puis en fait, peut-être la dernière année, même en ce qui a trait au hockey au Canada. Mmh. Mais à force de rencontrer des gens, ça commence à devenir une réalité. La semaine dernière, c'est sûr que c'est devenu une réalité un peu plus. Mais il faut juste comprendre, hein, pour que les gens comprennent, je suis président par intérim des Alouettes jusqu'au 6 avril. Et vous le savez, évidemment, que la transaction, il y a eu les vérifications diligentes jusqu'à la semaine dernière. Et là, on est dans l'intégration de plein fouet pour maximiser tout mon temps, vu que je quitte dans 3 semaines. Alors, pas trop le temps de se penser, mais quand je m'arrête, ça commence à rentrer, effectivement.
Je vais y aller avec une autre question, les gars. Je vous prends le cours. Là, tout le monde me regarde la bouche ouverte. On va y aller. Ça sera pas long. J'en ai une autre. Mario, tu parlais justement de transition. Tu es présentement président par intérim des Alouettes. Tu seras le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais dans ta tournée médiatique, on te pose des questions qui sont assez précises sur tes objectifs, ce que tu vas faire avec les bagarres. Tu sais, t'as des points, la santé financière de la Ligue. Comment t'arrives à t'assurer d'être capable d'être à niveau pour répondre à ces questions-là, tout en travaillant toujours pour les Alouettes?
Ben, en fait, c'est les briefings d'usage un peu sur les grandes questions de l'heure. T'sais. Moi, ce qui est arrivé, Mario, pour comprendre le processus, Jérémy, j'ai quand même présenté au comité exécutif au milieu février un espèce de vision extérieure, un plan, si on veut, mais c'est dur d'appeler ça un plan parce que c'est dans un contexte de discussion où tu n'as pas toute l'information. Mais ce que moi, je voyais comme important, de toute évidence, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont acheté jusqu'à un certain point, mais il n'est pas encore tout validé. Puis après ça, à part de la semaine prochaine, en lien avec la semaine passée, bien, c'est sûr que j'ai demandé à la Ligue, tu sais, effectivement, vous avez vu la journée même de où j'ai été entériné de façon formelle au mois de mars, là, 2 semaines. Ils ont pris aussi le vote en ce qui a trait avec les bagarres. Alors là, il reste la mécanique autour de la bagarre, mais essentiellement, le grand pas est fait de dire qu'ils vont bannir l'année prochaine. Donc, on a été assez briefé sur ça. Alors ça, c'est les enjeux. Le reste, en tout ce qui a trait avec le passé, moi, je toucherai pas à, tu sais, j'ai pas à commenter ça nécessairement. Mais c'est sûr que il y a toujours un briefing de base un peu avant de te présenter, dans les grands sujets de l'heure, disons ça de cette façon-là. Puis après ça, ben, on est dans le conceptuel, tu sais, on est dans, essentiellement l'objectif global. Le comment après ça, ben c'est ce qui va être intéressant de discuter dans les prochaines semaines, et dans mon cas, dans les prochains mois, pour arriver quelque part à un plan qu'on fera adopter au début de l'automne prochain.
Je prends la balle au bon, Simon Olivier, ici. Sur ce que tu dis, que t'es pas là pour nécessairement parler ou ce qui est le passé, t'étais pas là, puis c'est l'évidence, mais ta présence aussi précipitée dans le junior majeur, c'est en raison du passé, c'est des erreurs qui ont été faites, qui ont précipité le départ de Gilles Courteau. Comment tu vois ça composé avec justement la discussion sur le passé? Parce que c'est assez évident que la Ligue a commis des erreurs de jugement. Des fois, elle peut avoir à regarder ailleurs. Là, je parle ici évidemment du gros dossier des initiations, mais aussi des méfaits qui ont été documentés dans le junior majeur canadien dans les dernières années. C'est quoi un peu ta manière d'aborder ça? Est-ce que c'est vraiment, on n'en parle pas, on passe à d'autres choses, on regarde ce qu'on peut faire, ou vous êtes conscient qu'il y a une espèce de code conscience, si on veut, si vous voulez me répéter, sur ce qui a été fait, puis que, comment on aborde ça justement, le passé?
Ben, en fait, il y a deux choses, puis je vais revenir sur la culture et sur un changement de culture après, mais essentiellement, il n'est pas question de faire semblant qu'on n'en parle plus. Ça, c'est clair. La Ligue a déjà fait des pas, je pense, de ce que vous avez tous vu. La Ligue a fait des pas en instaurant le code du vestiaire, par exemple, des choses qu'elle veut mettre de l'avant. Fait un appel à libérer la parole. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que si la parole se libère, ben les cas, s'il y en a qui sortent, on va les traiter. Personne aujourd'hui est en mesure d'assurer qu'il n'y a aucun autre cas. Les gens, vous savez comment c'est, comme moi, on suit l'actualité, tout le monde, porter plainte des fois dans ces cas-là, ça peut être compliqué, mais il faut que ça se fasse quand quelqu'un subit ou a subi un traumatisme ou a des séquelles, tu sais. Alors, et si ça peut être un chemin de guérison, ben tant mieux. Alors ça, il n'est pas question de faire semblant que ça existe pas. Par contre, quand tu veux changer la culture, il y a un vieil adage qui dit très bien que tu peux pas continuer à t'acharner à combattre le passé, il faut que tu plutôt bâtisses le futur. Et puis, c'est ça qu'on va faire. On va voir comment bien encadrer ça. Moi, je sais qu'il y a des gens compétents à la Ligue en ce moment qui regardent tout ça. Quand je vais arriver le 8 mai, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de travail qui va avoir été fait. Il va y avoir beaucoup d'apprentissage qui va avoir été mis en pratique. Et là, ben, on verra où on est rendu à ce moment-là, puis s'assurer aux assises du mois de juin que toutes les équipes sont sur la même longueur d'onde. Si on vient chercher quelqu'un de mon acabit, qui connaissent mon background, puis qui ont pris le temps de regarder, c'est teinté de changement. Ça a toujours été, moi, j'ai dit la meilleure façon de pas subir le changement, c'est de le provoquer, puis c'est d'être en avant de cette parade-là, et de s'entendre sur une direction. À partir de ce moment-là, c'est déjà chaotique à l'avance, mais si au moins on est tous à la même place, puis on sait qu'on va arriver là dans 3, 5, 10 ans, ça rend le chemin plus facile parce qu'il y a un objectif au bout. Alors, c'est clair que ces éléments-là, écoute, ils n'ont jamais été acceptables, il faut être clair, là. Mais là, maintenant, il va certainement avoir des éléments d'insistance, des éléments récurrents de vérification d'une façon ou d'une autre, tout ça reste à voir dans le comment. Tu sais, j'ai pas aujourd'hui le comment du tout, mais l'intention est plus que ferme. Que ce genre de... Il faut que les joueurs comprennent, que les adultes autour des joueurs comprennent, les parents comprennent, que les entraîneurs, DG, présidents, propriétaires, tous comprennent que pour le bien du long terme de la Ligue, c'est la seule avenue possible là, d'être très, très sévère puis de regagner la confiance de tous au fond.
Mario, c'est Richard Labbé. Je voulais absolument te poser la question suivante parce que tu parlais de culture. Et je trouvais ça intéressant. Tu sais, récemment, j'ai eu la chance, le privilège de parler avec Dean Bergeron. Ça a donné un texte qui, je pense, a touché beaucoup de gens. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, tu sais, des anciens joueurs qui m'ont écrit pour me dire le problème, oui, les bagarres, tout ça. Mais le problème, il est au camp d'entraînement. Tu sais, j'ai eu un ancien joueur qui m'a écrit qui était dans un camp de junior majeur il y a quoi, 12 ans à peine. Puis qui est sorti de là avec deux commotions cérébrales, puis jamais rejoué au hockey. La culture de devoir faire sa place, de devoir se prouver quelque chose, elle semble, je pense, encore exister. Et ça semble problématique, Mario, ça semble vraiment difficile, ça semble une montagne, là, vraiment, en tant que problème, de s'attaquer à ça. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème-là? Tu sais, les matchs, je pense que vous allez y arriver. Il y aura certainement des paramètres pour bannir les bagarres. Mais le camp, où tu as des 16 ans qui débarquent et qui veulent se faire remarquer, comment est-ce qu'on change ça?
Mais ça, encore une fois, je pense qu'on le change avec, j'ai dit la semaine passée, que c'est pas une blague, avec fermeté et conviction puis clarté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans la mesure où les batailles vont être bannies des matchs, je vois pas comment, et là, traitez-moi de naïf, vous avez le droit, mais je vois pas comment maintenant, au camp d'entraînement de l'année prochaine, avec des batailles bannies, on fait sa place à coup de poing. Tu sais, il va falloir faire sa place à coup de bons coups d'épaule pour les joueurs robustes, être capable d'aller devant le filet puis prendre tous les coups, puis rester là, puis faire des bons body checks, excusez-moi le terme. Comme je vis au football en ce moment, c'est un sport que on peut donner des plaqués sévères, mais qu'après ça, on donne la main aux joueurs qu'on vient de plaquer, puis on l'aide à se relever. Cette espèce d'esprit sportif-là, il arrivera peut-être pas au mois de septembre, mais c'est le genre d'attitude auquel il faut tendre. Il faut qu'il y ait un respect entre les joueurs. Il faut qu'il y ait cette espèce de reconnaissance que chacun fait son travail, entre guillemets, parce que là, on parle de joueurs juniors, mais fait son travail sur la glace. Puis les batailles n'en feront plus partie. Alors, j'ose espérer qu'au camp d'entraînement, si les exemples que tu décris, on va faire sa place par le talent, on va faire sa place par l'acharnement, on va faire sa place par l'agressivité, mais à l'intérieur des règles.
Mario, je vais revenir sur les événements qui conduisent à ta nomination. Si Gilles Courteau a dû partir, une des raisons, bien sûr, c'est qu'il n'a pas lu l'affidavit de Stephen Quirk. C'est ce qu'il nous a dit là par la suite. Pourquoi il n'a pas lu l'affidavit de Stephen Quirk? Là, juste pour rappeler, ce gars-là, il a été victime d'une initiation absolument dégradante, un joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Il avait déposé son affidavit là, dans le cadre d'une procédure légale. Ben, s'il l'a pas lu, c'est parce qu'il était avec les autres commissaires de la Ligue canadienne dans une logique de défense. On voulait défendre l'institution contre la poursuite des joueurs. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Toi, comme commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, t'es là pour défendre qui? Es-tu là pour défendre la Ligue de hockey junior majeure, l'institution? Es-tu là pour défendre les propriétaires ou es-tu là pour défendre les joueurs?
Ben, je pense que tu vas m'entendre, Philippe, demain en commission. C'est la commission parlementaire m'a demandé d'être là demain, je ne sais pas si vous saviez, pas au nom de la Ligue, mais au nom du citoyen qui va être futur commissaire. Parce que j'ai dit, moi, je peux pas parler au nom de la Ligue. J'ai un job à temps plein en ce moment avec les Alouettes de Montréal. Je suis même pas un employé de cette Ligue-là au moment où on se parle. Ils ont quand même tenu à ma présence. Ce que tu vas m'entendre dire demain, essentiellement, je suis en train de fignoler on a toujours un texte d'ouverture, mais je pense que pour bien servir, puis Jérémy va rire parce qu'il m'a probablement déjà entendu dire ça dans des meetings, pour bien servir les propriétaires, pour bien servir la Ligue, faut s'occuper du produit. Par conséquent, pour que le produit sur la glace soit défendu, soit protégé, donc les joueurs. Et dans ce cas-là, je les appelle les jeunes avec énormément de respect parce qu'il faut se rappeler qu'on a justement, on chevauche l'âge adulte, on est entre 16 à 20 ans. Alors moi, je vais me mettre au service des joueurs en tant que tels, parce que je pense que c'est la voie. Comme on prend soin de nos lecteurs quand on est à la presse, quand on prend soin de nos auditeurs, ça commence là. Quand ces gens-là sont heureux, normalement, le reste suit beaucoup plus facilement. Ça fait des meilleures performances, ça fait des coachs c'est plus facile, qui ont moins d'enjeux. Ça rend probablement le jeu beaucoup plus attrayant, ça attire plus de spectateurs. Et tout l'ensemble de l'œuvre, ça attire des commanditaires beaucoup plus. Je pense qu'en ce moment, veux pas, on va sûrement avoir je m'attends à ce que je vais arriver en poste à rencontrer des commanditaires, par exemple, Philippe, qui sont certainement remis en question dans la dernière année. de s'associer avec nous. Alors, ça, on veut les sécuriser.
Mario, je veux juste revenir là, avant qu'on aille trop loin là, sur les commanditaires. Je veux revenir à ça, cette notion de joueur. Tu as dit un petit peu plus tôt, là, en réponse à une question préalable, que tu es en faveur de libérer la parole. Puis là, tu viens de nous dire que tu veux défendre les joueurs en premier. Mais les joueurs, s'ils veulent se plaindre, est-ce que vous allez instaurer un mécanisme indépendant de plainte? Un mécanisme qui sera distinct de celui d'une plainte à une vice-présidente de la Légion majeure du Québec?
Absolument. Je pense, Philippe, sauf erreur, ça a déjà été dit. Sinon, ça va l'être demain. Mais essentiellement, Philippe, absolument. Absolument que le système de plainte va être indépendant. D'ailleurs, c'est une des questions que, au mois de février, le comité exécutif m'a posée. T'as-tu déjà eu, tu sais, à gérer des crises? Et l'exemple que j'avais donné, c'est exactement ça. J'ai eu, à un moment donné, à gérer une crise qui est publique avec deux grandes personnalités du Québec qui étaient connues. Et on est allé dans un secteur, on est allé chercher un juge indépendant. C'est un peu dans ma nature, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, quand tu vas aller au fond des choses, il faut les reconnaître. Alors, la courte réponse à ta question, c'est absolument.
Dans la même veine, au cours des dernières semaines, la réaction du milieu du hockey junior au Québec, c'est celui qui est le plus proche de nous, on a senti beaucoup de résistance. On sent de l'impatience, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme quand il y a question de changement. C'est-à-dire que on sent que les gens sont agacés. Encore en fin de semaine ou à la fin de la semaine dernière, je parlais à des gens de la Ligue junior majeure du Québec qui comprennent pas comment ça se fait qu'on parle encore de ça, les fameuses histoires des initiations. Et je sais qu'il n'y a pas que les initiations, il y a eu les bagarres, tout ça. Il y a eu beaucoup dans les médias encore la semaine dernière des gens qui disaient « Oui, mais comment ça que les bagarres, on parle encore de ça, il n'y a pas des sujets plus prioritaires, etc. » À quel niveau de résistance tu t'attends auprès de la part du milieu, de la Ligue, des gouverneurs, des DG, des propriétaires? J'ai l'impression que c'est une grosse crowd qui t'attend. Comment tu vois ça, ce défi-là, gérer la résistance puis le changement?
Bien, je m'en dis, Simon, honnêtement, ceux qui m'ont appelé, ceux qui ont pris le temps de m'écrire ou de rentrer en contact avec moi, plus le comité exécutif de la Ligue, je suis obligé de te dire en date, je l'ai pas senti. J'ai pas personne qui me prévient ou qui m'a dit fais attention. Maintenant, je suis pas naïf. Est-ce qu'il y a des gens, mettons, qui trouvent que tout est bien comme ça présentement? Peut-être. Il y a des éléments où je comprends leur impatience aussi. Si j'étais dans cette ligue-là, depuis un an, il y a quand même des choses qu'il faut se dire entre adultes, là. La Ligue d'hockey junior majeur du Québec a eu dans son histoire des initiations. Je dirais que la faculté de médecine de l'université, n'importe quelle université McGill, en a probablement eu aussi. Tu sais, quand ça a sorti le rapport, quand Martin a sorti son article, plusieurs radios ont fait des shows toute la journée sur ça. Puis des histoires, vous devriez retrouver cette journée-là. Pas pour nous excuser, je vais être très clair, là, mais pour dire qu'il y avait un phénomène, là, 20, 30, 15 ans, peut-être plus récemment, on verra, mais certainement plus présent, il y a plus de deux décennies, qui était répandu partout. C'était la culture de l'époque. On l'a vu, cette culture-là, évoluer. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Les batailles, c'est un peu la même chose. On est rendu, vous le savez, les stats, là, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut voir à peu près 10 matchs pour assister à une bataille, en moyenne. Alors que c'était déjà, il fait une époque que c'était peut-être une bataille au moins par match.
Je pense que c'est 87 batailles sur 500 quelques matchs, là, présentement, dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec.
On pourrait dire 87 de trop encore.
Ah, définitivement, oui. Ah, oui.
Là, Richard, on est à la même place. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'un changement de culture, ça se fait pas en un week-end. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont changées. Je pense que les gens qui sont proches de cette ligue-là, qui l'ont à cœur, sont épuisés après des semaines et des mois où on semble tout tasser, mettre le spotlight sur ça et oublier les belles choses qui sont faites, ouais. La progression qui s'est faite, c'est à peu près juste ça, je pense, cette impatience-là aussi.
Mais Mario, je pense que c'est juste la lignée de ce qu'on a vu avec Hockey Canada qui se poursuit, et là, ça déferle sur la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, et j'imagine que ça va aller faire un tour en Ontario, ça va peut-être aller faire un tour dans l'Ouest aussi, puis peut-être aller voir du côté des États-Unis à un moment donné, parce qu'on a vu même dans la NCAA, il y avait un club féminin qui avait qui ont su faire d'initiation, puis tout ça, on en a parlé, je pense c'est Harvard, ouais. Tu sais, on a parlé, ça commence à sortir. Mario, écoute, tu vas rencontrer le comité demain, tu vas rencontrer le comité d'un point de vue personnel, parce que tu n'es pas encore le commissaire de la Ligue. Moi, je pose une question, je la pose à toi, Mario, puis en même temps, je la pose aux gars de la presse qui sont là. Je vous rappelle, il y a Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange et Philippe Quentin. Comme société, là, la question, c'est est-ce que c'est correct? Okay, je vous pose la question. Comme société, est-ce que c'est correct de 5 ans à 15 ans de laisser le développement de nos jeunes hockeyeurs sous l'égide du gouvernement avec Hockey Québec? 5 ans à 15 ans, c'est le gouvernement qui s'en occupe à Hockey Québec. On arrive à 16 ans et on donne ça à l'entreprise privée. Est-ce que ça, comme société, c'est quelque chose qu'on trouve correct? Mario, premièrement, je veux que tu répondes à ça.
Ben, je pense que oui. Quand tu as un talent particulier d'élite, je te dirais d'emblée qu'il y a d'autres sports. Je prends n'importe quel athlète olympique aujourd'hui, il y a plein de disciplines, 14 même. Si je pense que j'exagère pas. Il y a des gymnastes, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je pense qu'il y a, quand quelqu'un a un talent d'élite puis qui veut se développer puis prendre la chance d'aller en faire carrière, puis faut, tu sais, c'est correct de passer par un chemin qui va être différent. Ceci étant dit, ça veut-tu dire, par contre, que il y a pas, tu sais, il y a des règles qui sont mises en place. Tu sais, moi, ce qui m'est important, moi, j'ai toujours dans ma vie été dans le service privé. Puis je peux te dire que j'ai toujours dirigé avec équité. J'ai toujours dirigé avec beaucoup d'intégrité, le plus possible, quand des choses tombaient sur mon bureau. Je voudrais pas qu'il y ait un sous-entendu de la question qui est dit privé. À tout prix, ça veut dire que ça sonne négatif. Mm-hmm. Je pense qu'on n'est pas là du tout, du tout, du tout. C'est des arbres, tu sais, on est en lien avec les parents, la Ligue, est-ce que je comprends? J'ai posé beaucoup de questions quand même. Tu me demandes en termes de briefing, Jérémy, j'en ai posé beaucoup de questions. Moi, ce qui m'importe justement, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui ont 12 à 15 ans, je veux dire que les enfants ont 12 à 15 ans, qu'ils soient rassurés que leur choix premier ne se pose même pas de questions, parce qu'ils sont fiers de leur ligue. Mais ça, il faut le mériter. On est tous en même place. Il faut redorer le blason, pour prendre l'expression qui est consacrée, et s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça. Mmh. Moi, je fais pas d'équation que le privé est négatif. Je pense que le privé, souvent, a prouvé. Puis, tu sais, je veux dire, la discussion commence avec la santé, je pense. Ce matin, là, je lisais que M. Dubé voulait aller piger dans le privé. Le privé, des fois, force à trouver des solutions optimales à cause de cette compétition-là. Alors, non, moi, je pense que je vois pas d'enjeu avec ça. Puis quand le gouvernement a toujours le droit de nous demander ou de légiférer ou de s'assurer de mettre en poste des règles, mais le but maintenant, c'est d'être très proactif. Moi, par ma nature, je suis assez proactif, donc on va essayer d'être très proactif puis s'assurer que tout le monde est rassuré, incluant les instances gouvernementales. Mais je peux te dire, si les parents le sont, puis les joueurs le sont, normalement, le reste va suivre. Mm-hmm.
Je trouve ça, c'est toujours facile de regarder l'herbe chez le voisin puis de voir que c'est beaucoup plus vert, mais il y a peu d'instances dans le monde, dans n'importe quel sport, où tu arrives à 16 ans dans un milieu comme celui-là, comme le milieu du hockey junior, et qu'on s'attend à ce que tu progresses à partir de ce moment-là. T'sais, les joueurs de football sortent aux États-Unis, Mario, je suis sûr qu'il le sait très bien, tu sors du secondaire, puis tu arrives à 18, 19 ans, ce qui est l'autre niveau qu'à l'université. Là, tu vas arriver à 22 ans, 23 ans dans les rangs professionnels. Il y a une marge qui est énorme. Je sais pas si, évidemment, ça va être on va pas refaire ça maintenant, là, mais c'est un système qui est... Je sais pas jusqu'à quel point c'est un système qui est bon. On regarde le hockey scandinave, entre autres. Les joueurs qui arrivent de l'Europe, majoritairement, arrivent plus vieux ici. Les Américains, même chose. C'est énormément de pression d'arriver à 16 ans, sérieusement, là, dans un milieu comme qui est celui du junior.
Clairement. Mais moi, je doute pas des bonnes intentions, parce que je sais qu'il y a des propriétaires qui sont là par passion, puis je doute pas des bonnes intentions. Je fais juste me questionner là-dessus, puis je me dis, tu sais, si t'as toujours été sous l'égide d'une fédération, pourquoi t'arrives à 16 ans et tu n'es plus sous l'égide d'une fédération? Mario nous dit, mais attendez, le gouvernement est impliqué directement, a donné pas loin de 10 millions de dollars également. Mario, est-ce qu'une des premières jobs que t'auras, en fait, c'est de satisfaire le politique?
Ben, satisfaire, c'est un grand terme. Mais certainement, j'ai la chance d'avoir été invité par la ministre Charest à la fin du mois. Donc, on va avoir une première rencontre. Et ça, pour moi, c'est primordial d'avoir des rencontres qui sont cordiales. Ça, c'est encore une fois, je suis pas quelqu'un qui est confrontant de nature. Je pense qu'on peut être en désaccord de façon très, très civile. Ça veut dire rester à la table puis continuer de trouver une solution qui satisfait les deux parties. Alors, oui, ça fait partie de l'enjeu d'avoir des relations. Puis si on a des plans futurs, il est possible que dans nos plans futurs, effectivement, une bonne relation avec le gouvernement peut être très, très salutaire. Ça peut passer par des fois des infrastructures. Puis encore une fois, je suis conceptuel parce que j'ai pas tous les détails, mais je connais assez la business pour savoir que dans le prochain 10 ans, il va y avoir des enjeux qui vont toucher certains éléments que possiblement une collaboration avec le gouvernement pourrait être bienvenue. Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des relations professionnelle, harmonieuse, civilisée de ce côté-là, absolument.
Mario, moi, je te dirais que jusqu'à preuve du contraire, je souhaite que le gouvernement du Québec reste super impliqué dans le dossier de la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'il faut regarder les choses en face, là. Si ça n'avait pas été de l'intervention d'Isabelle Charest pendant la pandémie, quand la Ligue junior majeure du Québec a demandé des sommes supplémentaires, il y a pas grand chose qui aurait changé dans cette ligue-là. Et c'est là qu'on voit, puis je sais que les organisations sportives, il y a rien qu'elles détestent le plus, généralement. Là, elles le disent pas nécessairement publiquement, mais privément, on sait tous comment elles pensent. Ce qu'elles détestent le plus, c'est quand le gouvernement se mêle de leurs affaires. Et on le sait, ça n'a pas du tout le temps faire le bonheur de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a même eu de la résistance. Mais il faut constater que les changements positifs auxquels on assiste à propos des bagarres, ils sont pas l'initiative de la Ligue junior majeure du Québec, des propriétaires ou des gouverneurs. Ils sont l'initiative de la ministre des Sports. Et moi, je pense que tant que ça, ça va rester comme ça, tant que la Ligue n'aura pas montré qu'elle peut elle-même s'auto-réguler puis avancer, j'espère que le gouvernement va rester investi.
Ben, tu vois, Philippe, nous, sur ça, si je peux me permettre, le point que tu fais est très bon. La crainte des entreprises privées, puis permets-moi de faire allusion à mon passé. Quand mettons, tu es régi par le CRTC, la crainte que les télés, les radios, les télécoms ont toujours eu, c'est à un moment donné, quand tu mets le doigt là, ça va arrêter où, tout simplement. Le CRTC est un bon exemple où, ce que, à un moment donné, on avait des craintes en début des années 90. Puis quand ils ont permis, mettons, aux radios d'avoir 2 AM et 2 FM, ben tout vient avec un prix. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Et là, on tombe à ce moment-là dans la... Et moi, à ce moment-là, j'étais au Canada anglais. Là. Alors, tu tombes dans la réglementation du jeu, la réglementation de la programmation, où ce que là, tu donnes des règles là qui viennent changer un peu des fois les façons de faire, pas nécessairement pour le mieux. Parce que le but, c'est d'être équitable. Et là, ça enlève la notion de compétition, parce que c'est un milieu qui est compétitif. Donc, ce que les Américains appellent la méritocratie. Je sais pas si ça se traduit en français, vous me pardonnerez si ça se traduit.
On le comprend, on le comprend.
OK. Alors, c'est ça qui est la crainte de la... Puis là, je parle pas de Mme Charest, je te parle juste en général. Les entreprises privées, parce que travailler dans un univers comme moi, j'ai fait toute ma vie, qui est réglementé, j'ai de toute évidence, je l'ai fait pendant 36 ans, fait que j'ai pas de problème avec ça. L'idée, c'est de voir, c'est quand il y a aussi des changements au gouvernement, faut pas oublier, des fois à chaque 4 ans, c'est des mandats qui sont donnés, les directions peuvent varier. C'est ça qui est pour une business, qui est important, c'est la visibilité à long terme. T'sais, moi, j'arrive là le 8 mai, oui, la situation nous force à regarder des problèmes en date du 8 mai, mais ma job, en principe, c'est m'assurer que tout fonctionne bien en 2030.
Exactement.
Alors, tu sais, il faut que tu aies le temps de reculer. Donc, ça me prend de la visibilité. Je peux pas me changer les règles du jeu en 2027 quand j'ai travaillé comme un malade pendant 4 ans. Puis là, vous allez me dire, non, on tourne à gauche. Alors, c'est pas une critique que je t'annonce là, c'est un constat. Et ça, c'est juste la crainte. Peut-être que ça arrivera pas. C'est juste ça, des fois, de façon générale. Puis encore une fois, je suis précis. Là. Si des gens m'écoutent, je ne fais pas référence à aucune situation en ce moment parce que j'ai même pas commencé. Mais quand tu exprimes ça, c'est juste dans ce sens-là.
Ouais, c'est un danger d'être à l'air du temps, sauf que là, l'air du temps, présentement, elle est bonne. Ce que ça veut dire, c'est que l'idée est bonne de donner la parole, d'éviter les sévices corporels, puis de rendre ça une game qui est plus civilisée. Là. Je pense que présentement, c'est bon. Fait que donc, il faut être capable de surfer sur l'air du temps qui est favorable au développement du hockey présentement, Mario.
Oui, je pense que c'est très humain aussi, messieurs, à un moment donné. Tu sais, quand t'as donné ta vie, puis je parle des entraîneurs, je parle pas de tout le monde, les joueurs, les entraîneurs, les physios, qui ont passé beaucoup d'années, puis qui ont pas vu tant de choses que ça. Là. Il y en a beaucoup dans les 10 dernières années qui ont dit, il y en a beaucoup de témoignages qui ont dit, moi, j'ai jamais vu ça, tout ça.
Ouais.
C'est difficile pour eux. C'est ça le changement aussi, c'est que tu te fais dire, à un moment donné, tu veux pas avoir l'impression que tout ce que t'as fait, c'est pas bon. Surtout que c'est pas vrai. Alors, tu sais, c'est difficile de vivre ça, ce changement-là de l'intérieur aussi. Donc, je peux comprendre.
En même temps, je suis désolé pour ces personnes-là, mais si ce qui a été vécu, c'est des drames humains qui ont brisé des vies, ben même si le physio il a jamais rien vu, je veux dire, c'est jusqu'à un certain point, c'est pas mon problème, puis c'est pas possible. C'est pas de cette personne-là qu'on parle. Puis dans toute cette histoire-là, je comprends qu'il y a une espèce de fatigue au niveau de la ligue, qu'on rebrasse les vieilles histoires, puis qu'on cherche du positif. Puis je le comprends, c'est légitime. Mais tu sais, tous les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas vécu ça, ben je pense pas nécessairement que leur parole est plus valide que celles qui ont vécu des choses complètement horribles comme celles qu'on a entendues les dernières semaines. Fait que je veux rester quand même poli dans tout ça, mais tu sais, même si la ligue est tannée ou que les employés disent ben moi j'ai pas vu ça, ben je suis désolé, mais on va continuer d'en parler là, de ce qui n'a pas marché là.
Ah, mais Simon, tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas en train de dire ça, j'essaie juste d'expliquer. Quand vous dites qu'il y a des gens, des fois, qui sautent pas à pieds joints puis qui disent oui, c'est un peu tout ça. Tu sais, il y a une notion de choc, il y a une notion d'absorber, il y a une notion d'incrédulité. Tu sais, prends toutes les étapes du changement ou les étapes du deuil. C'est ça qui se passe jusqu'à un certain point, là. Les gens sont en train de les vivre, ces 5-6 étapes-là, mais je suis... Juste être clair, encore une fois, on est tous en même classe. Moi, je suis allé là parce que ce qui m'attire, c'est ce changement-là. Là, il est quasiment fait avant que j'arrive. Tant mieux. Mais il y a d'autres à faire. Puis il reste le plus gros à faire, qui est changer la culture. Tu sais, ça va être intéressant de voir comment mes premières rencontres avec les entraîneurs. Tu sais, la semaine passée, le commissaire par intérim, on m'a dit, Martin a eu des rencontres avec tous les joueurs. Je parle à tous les joueurs, tous les entraîneurs. On remet les pendules à l'heure. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça aurait dû être fait avant? Probablement. C'est correct de dire ça. Mais là, on est là, puis il faut regarder par en avant. On est tous en même place.
On le souhaite, Mario Cecchini. Beaucoup de défis pour toi au courant des prochains mois et années. Juste à dire, Mario, la prochaine fois qu'on va se parler, on va jaser de hockey. Peut-être qu'on va se croiser à Drummondville avec un mauvais café. Un café d'aréna à Drummondville d'une game junior, mettons, Mario.
Avec un très bon café.
Bon, parfait, avec un très bon café. Mario Cecchini, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, messieurs, toujours un plaisir.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado sortie de zone saison 4 épisode 50 avec Richard Labbé, Simon Olivier Laurence de la presse et nous avons pour le 98.5 FM Antoine Roussel qui joue à nous. Salut Antoine.
Salut à la gang.
Bon, Antoine, nous avons eu Mario Cecchini, prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Long entretien avec lui. Écoute, il y aura des défis intéressants. Voyons voir la suite des choses. Là. On va parler du Canadien, si ça vous tente, messieurs. Le Canadien qui a vu Jonathan Drouin être cloué au banc dans le dernier match. Aucune présence sur la glace. Zéro. Je dis bien zéro. Ça, c'est long, longtemps. Si vous me permettez, messieurs, je vais commencer avec le joueur d'hockey. Antoine, être pendant un match au complet à boire de l'eau sur le banc, comment tu penses ça? Comment tu trouves ça?
J'ai tellement trouvé ça ordinaire pour de vrai, là. Parce que je comprends en fait la situation, parce que faut l'expliquer, parce que il a fallu que je fasse une ou deux recherches pour vérifier dans le fond pourquoi il n'y avait pas été retiré de l'alignement. C'est parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait le remplacer, parce que tout le monde est blessé. Il aurait fallu qu'il rappelle un joueur de Laval pour pouvoir le remplacer, si je ne m'abuse. Et là, il n'y avait pas personne de disponible. Donc, ce qu'ils ont décidé de le faire, c'est de l'habiller, mais tout simplement de ne pas le faire jouer. Mais moi, personnellement, en tant que joueur, je trouve ça tellement insultant. Tu sais, si tu pars dans l'idée que tu ne le fais pas jouer, joue ça tout simplement à 19, puis après ça, il n'y en a pas de problème. Tu ne penses pas à la TV. Je me souviens, le présentateur qui présentait le match, il le montrait constamment aux 5 minutes, toujours pas de chiffre pour Jonathan Drouin. Oh. Toujours pas de chiffre.
Mais juste,
tu peux dire, c'est à TVA.
Mais t'as pas le droit, juste mentionner, faut que t'habilles 20 joueurs selon la convention collective. À moins de force majeure, là, comme il y avait eu un an dans le cas de la COVID. Là.
Ouais,
donc, il était obligé, Antoine, d'être, malheureusement, là, puis d'être sur le banc et de ne pas jouer. Martin Saint-Louis lui avait dit le matin
même. Tout simplement, il aurait pu lui dire, déshabille-toi puis va dans la chambre après le warm-up. Si t'as une blessure dans le warm-up, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Il y a toujours le moyen de s'arranger, là. Puis je trouve que, au final, ça fait juste un petit peu mal paraître Martin Saint-Louis. En fait, c'est la première fois que je suis un peu en désaccord dans la façon dont il gère les choses. Puis le système de jeu aussi, là. Mais, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. C'est vraiment long. Puis en plus, c'est pas juste que pour le joueur, c'est plate pour tes coéquipiers, là. Tes coéquipiers, ils te voient sur le banc, là. Puis tu sais, ils se disent, ah ouais, il lui fait subir ça, alors que, tu sais, c'est juste 2 minutes en retard. Tu sais, je connais des gars qui ont fait beaucoup plus de mal à une équipe, puis qui ont eu 10 fois moins, là. Ah là, il était exposé, là. Ça avait pas de bon sens.
Mais en plus, à Tampa Bay, là.
Lui voulait jouer là. Il avait dit en plus après le match, il dit malheureusement c'était à Tampa Bay, donc c'est clair que lui aurait aimé ça être là pour des raisons. Bon, c'est son ancien club évidemment. Mais je pense que Martin Saint-Louis, depuis à peu près, au moins depuis les fêtes, là, martèle la culture, puis l'importance de la culture, puis l'importance. Bon, alors ça s'inscrit là-dedans. Je pense que lui, il a voulu faire.
Mais tu t'es fait varloper dans les 3 matchs avant aussi. T'as joué proche.
En plus. Ouais, ça, c'est l'autre chose. T'sais. Puis Antoine, c'est un peu ça la réalité. T'sais, tu perds 9 à 5, tu te fais humilier en Floride, tu prends le vol, t'arrives à Tampa le lendemain. T'sais, tout le monde est à l'hôtel. Tout le monde est à l'hôtel. T'as juste à demander un wake-up call de madame.
Les autres, on va te l'envoyer. Il n'y a personne qui est arrivé en retard pour lui.
T'es pas dans le trafic. T'sais, à la limite, si le club avait été à Montréal, ça se peut. Tu pars de chez toi, t'es dans le trafic, ça se peut. Mais là, tout le monde est à l'hôtel. Donc, tout ce qu'il avait à faire, c'est de se lever à l'heure, prendre l'ascenseur, descendre en bas, puis aller dans le meeting en même temps que tout le monde. Je pense qu'on lui en demandait beaucoup.
Faut pas minimiser. C'est pas ça que je fais. Je minimise pas que le fait qu'il était en retard ou pas. Pour moi, ça mérite une réponse, mais j'ai juste trouvé que cette réponse-là, ben c'était un petit peu disproportionné là, quand même. Il y a des gars qui manquent des couvre-feux, qui sortent puis qui jouent le lendemain. Il y a seulement le coach qui le fait, là, qui le sait, nous aussi. Donc, pour moi, d'être mis devant les médias, même pendant un match, qu'on en parle encore, j'ai trouvé ça ordinaire pour, si c'est seulement ça, d'avoir manqué un meeting pour de vrai. Je pense qu'il y a plein de façons dont tu pourrais faire compatir ton joueur ou le faire payer d'une certaine manière. J'ai déjà vu un gars arriver en retard. L'équipe a gardé sa journée de paye ou des choses comme ça. Donc, ça s'est pas su nulle part. Ça s'est seulement su à l'interne dans l'équipe. Donc, des fois, j'ai juste trouvé que pour 2 minutes, passer 20 minutes sur le banc, 60 minutes, pardon, même plus, c'était beaucoup pour ça.
Ça nous amène peut-être à penser que c'était peut-être pas juste 2 minutes. Il y a peut-être eu d'autres affaires à un moment donné qui font en sorte que c'est l'accumulation. Simon, Olivier, là, tu te ranges de quel côté? Team Roussel ou Team Labbé?
Ah, je suis Team Tiraillé.
Team Tiraillé, voilà.
Je l'ai pas vu venir, celle-là. Je connais pas.
J'ai un peu l'impression aussi que la réponse est forte. Je comprends l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de zones grises. Dans le fond, c'est on le punit ou on le punit pas. Mais en même temps,
T'sais, dans les circonstances du Canadien, c'est-à-dire que c'est une saison perdue. Je pense que le message sur la culture est martelé. Je pense que si les joueurs qui l'ont pas attrapé encore, ils l'attraperont jamais. Il restait à ce moment-là 13 matchs. Le Canadien vient de manger 2 volées. Nick Suzuki a joué 25 minutes. Nick Suzuki, avant le match des Étoiles, ratait des entraînements. Moi, je serais pas du tout surpris d'apprendre que Nick Suzuki est blessé ou joue en début d'une blessure ou est amoché. Tes autres centres, c'est Chris Tierney puis Alex Belzile. Tu sais, faire jouer Drouin sur un quatrième trio, une dizaine de chiffres, pas d'avantage numérique, je pense que ça aurait été une punition en soi.
Et c'est de la culture puis tout ça. Il y a combien de gars qui vont être de retour l'an prochain? La moitié des gars seront pas là.
Je regarde, tu sais, philosophie. Puis si on le prend en pouce, la philosophie plus loin, tu sais, des joueurs, des fois, qui apparaissent complètement désengagés. Je ne veux pas nécessairement les nommer ici, mais on l'a vu quelques fois cette saison.
Nomme-les.
Certains joueurs, disons,
en tout cas, je
vais pas aller là. Stéphane White n'est pas là. C'est moins le fun de parler de lui quand Stéphane White n'est pas là. Mais
attends, un but, une passe, ça me
semble. Non, mais mon point est tant que j'ai vraiment l'impression que on a voulu faire de Drouin un exemple, c'est clairement ce qui est arrivé. Je pense qu'à ce point-ci, c'était un petit peu intense.
OK, mais écoute, je continue avec ça, puis Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Le fait que la veille, Martin Saint-Louis soit intronisé au temple de la renommée du Lightning de Tampa Bay, c'est comme son week-end, c'est comme tous les yeux sont tournés sur lui. Le moment est idéal pour montrer à la Ligue nationale aussi, c'est moi le boss. Il s'est peut-être servi de ça en même temps aussi, là.
Moi, je pense que tout le monde sait de quel... quel bois chauve, de quel personnage, puis tu sais, t'as pas besoin de, je pense qu'il y a pas nécessairement besoin de réaffirmer devant tout le monde comment il fonctionne, puis si c'est légitime pour lui d'être un coach de la Ligue nationale, je pense qu'il l'a prouvé toute la saison pour de vrai. Donc je pense pas que c'est vraiment ça, il y a pas de lien à faire entre les deux, mais c'est juste que la conséquence pour moi était beaucoup de manquer un match qu'on te met dans les estrades, si c'est tel que tel, mais qu'on te laisse assis devant sur le banc tout un match. Si je me mets dans la peau du joueur, ben tu sais, premièrement, t'es en maudit, là. À un moment donné, là, t'es comme qu'est-ce que je fais ici? C'est-tu un dîner de con puis que j'ai reçu une invitation puis c'est moi le con, tu sais? Fait que j'ai trop extraordinaire. Faut pas faire autre chose. Mais j'ai juste trouvé sa place de la façon dont il a géré ce problème.
OK, parlons maintenant du match. On a vu dans la rencontre, Goulet n'était pas là, il était blessé. Joseph Martin-McGuire qui me dit Goulet avait une botte thérapeutique pied gauche, je pense.
Ouais.
Là, on va peut-être apprendre un peu. Là, aujourd'hui, il était sur la... En fait, il était là pour la photo d'équipe. Aujourd'hui, on a fait une photo d'équipe.
Mais c'est pas entraîné.
Pas entraîné du tout. On avait un entraînement. Gallagher, Dak, Evan étaient de retour à l'entraînement. Goulet ne s'est pas entraîné. Est-ce qu'on va nous annoncer que sa saison est terminée dans pas trop long? Il y a des fortes chances. Il reste quoi, 12 matchs, là, à peu près?
Ouais. Mais écoute, ce dossier-là s'ajoute aux autres dossiers de blessures qui ont été, à mon avis, très mal gérés cette saison chez le Canadien. Puis regarde, moi, j'étais là, jeudi
soir. Qui gère mal ça? Est-ce que c'est le Dr. Mulder?
Ben, j'ai posé la question à Martin Saint-Louis, puis ça semble pas clair. Mais regarde, ce qui est arrivé jeudi soir, on l'a vu chuter le long de la bande. Exactement le même endroit qu'il y a 2 mois, puis le même endroit physiquement pour lui, encore la jambe gauche. Il sort de là, clairement dans un inconfort. Ça, c'est vers la fin du match. Et là, revient. C'est 9 à 5. Il fait encore 4 présences. On le revoit plus, il n'est pas à l'entraînement le lendemain. 9 à 5, t'es 28e. 28e au classement de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'était vraiment nécessaire?
Mais c'est le kid, si je vais retourner, laisse-moi retourner.
OK, parfait. OK, regarde, puis Kent Hughes nous a dit la même affaire. Il dit, Gallagher, s'il était juste une jambe, on faudrait l'attacher. Je comprends tout ça, mais tu sais, à un moment donné, en tant qu'organisation, là, il faut que tu décides ce qui est meilleur pour le joueur. C'est comme un boxeur. Un boxeur, moi, j'en ai couvert les combats de boxe. Combien de fois j'ai vu un gars à moitié mort, il a de la misère à se tenir debout, je sais pas dans quel coin retourner après le round. Il dit à son coach, ah, c'est bon, je continue. Là, à un moment donné, le gérant monte, garoche la responsabilité du coach. Oui, exactement. Et là, dans le cas de Goulet, encore une fois, là, c'est 9 à 5 puis t'es 28e au classement général. Il y a aucune presse. C'est absolument pas nécessaire de ramener Kayden Goulet. En plus que tu le sais qu'il vient de rater 2 mois pour probablement la même chose, ou à peu près. C'est pas nécessaire. Et là, c'est pas la première fois. On a parlé de Gallagher, on a parlé de Caulfield, Monahan, tous des gars qui étaient blessés, qui sont revenus et qui sont repartis. Et à un moment donné, il faut que tu te poses une question en tant qu'organisation. Est-ce que tu gères bien ces choses-là? Pour moi, là, si je suis Kent Hughes, cet été, ça, là, cette question-là, c'est en haut de ma liste.
Non, mais clairement, mais Simon Olivier, tu sais, je veux dire, faut regarder quoi? Faut regarder le Dr Mulder, faut regarder l'équipe de médecins. Tu sais, il y a personne qui va mettre en doute la compétence des gens. Il faut juste peut-être mieux gérer les gars en disant, t'as beau me dire, tu y retourneras pas, c'est nous autres les boss.
Ben exactement, je pense pas que le Dr Mulder est impliqué d'aussi près. Là. Pendant les matchs, je crois pas. Mais Goulet, c'est quand même deux fois, en quoi, deux semaines ou trois semaines, c'était à Anaheim qui s'est blessé en première période, je crois, a poursuivi le match et a raté le match suivant. Et on avait posé la question à Martin Saint-Louis, auriez-vous pu gérer son temps de glace différemment? Ce qu'il nous avait grosso modo dit, c'est, si un joueur est sur le banc, moi je le fais jouer. C'est peut-être pas en ces mots-là exact, mais si un joueur est dit...
À part de Rouen,
étiqueté. si un joueur est étiqueté comme disponible, il fait jouer puis c'est tout. Puis je trouve ça, je comprends. Tu sais, Martin Saint-Louis, on commence tranquillement à le connaître, mais on continue de le découvrir néanmoins. Puis je pense que c'est les parties de son travail qui l'intéressent pas. Tu sais, lui, le médical, là, pour reprendre un terme large, là, ça l'intéresse pas. Lui, il veut savoir est-ce qu'un joueur est là, est-ce qu'un joueur est pas là. Tu sais, c'est quasiment à croire que le matin, il reçoit une liste de 20 noms, puis ça va être les 20 noms d'aujourd'hui, ouais. Puis il se pose pas plus de questions que ça.
Je lui ai posé la question samedi soir, d'ailleurs, par rapport avec Goulet, puis il a dit, garde, moi, je gère le match, ce qui se passe en arrière.
Mais faudrait-tu juste lui rappeler que c'est le Canadien de Montréal qui a décidé que le coach était le porte-parole de l'équipe. Ouais. C'est lui qui s'adressait aux médias, c'est lui qui donnait les bilans également.
La question du bilan, ça me dérange pas à la rigueur, mais c'est qu'il n'y a jamais l'air de savoir. C'est bizarre de d'autres équipes que les entraîneurs savent.
Mais non, c'est sûr
que l'autre fois, Arturi Lekkonen s'est cassé un doigt contre le Canadien quand l'Avalanche était à Montréal. Tout de suite après la rencontre, Jared Bednar a dit Lekkonen s'est cassé un doigt. C'est drôle, il savait. Comment ça se fait que Saint-Louis n'a jamais cette information-là? Est-ce que lui, il dit, ben, je ne veux pas le savoir, moi, je veux juste avoir un joueur? Est-ce que c'est en amont que c'est au diagnostic que les personnels médicaux, puis je ne sais pas de qui il s'agit, mais est-ce que le personnel médical dit, ah, ben, c'est correct que ce joueur-là peut retourner? Ou le joueur, il leur dit, ben, je peux retourner, puis il dit, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est un pattern cette saison. Puis dans le cas de Goulet spécifique, c'est deux fois en probablement sept matchs. Je l'ai pas sous les yeux. C'est pas très impressionnant.
Mais surtout que si tu sais que c'est fait mal à peu près au même endroit à fin décembre, insiste pas là. Si c'est déjà fait mal, il y a un historique là. Donc t'es censé en tant qu'organisation être au courant de ça. Et encore une fois, là, j'insiste, là, c'est pas comme si on se battait chez le Canadien de Montréal pour une place en série. Tu sais, à la limite, ça, bon, regarde, je pourrais comprendre ça. C'est pas du tout le cas. Et ce que tu veux, là, présentement, c'est que Goulet, qui est probablement un de tes meilleurs espoirs à défense, tu veux qu'il soit à 100% au mois de septembre?
Ah, clairement. Ça, t'as besoin de lui au mois de septembre. Antoine, dis-moi, comment tu trouves ça, la gestion qu'on fait avec les blessures et le grand nombre de blessés chez les Canadiens?
Alors, en fait, par rapport à ça, j'ai pas l'impression que tu peux vraiment gérer, tu sais, par exemple, Goulet, quand je le regarde jouer, là, puis la façon dont il se blesse à chaque fois, c'est un peu, tu sais, tant même t'es le meilleur physiothérapeute, le meilleur docteur, ça changera rien sa façon de jouer. Il se met toujours dans des mauvaises positions, puis c'est un excellent défenseur, mais il se met toujours dans des positions délicates où quand il va se faire frapper, son épaule va être dans un sens tout croche que si tu prends un gros choc, ben là tu vas te faire mal. Ou il y a toujours un gars parce que il y a une grosse amplitude qui va lui tomber sur le côté de la cheville, puis là ça va lui faire mal peut-être au genou. On dirait que c'est à chaque fois que je l'ai vu se blesser, c'était ça. C'est toujours des c'est circonstanciel, et c'est un petit peu tannant parce que tu sais, j'aimerais ça te dire que la solution c'est de peut-être trouver juste du nouveau monde médical, mais des fois c'est plus dans les circonstances. Si on prend ce cas-là maintenant, c'est sûr qu'il y a une belle introspection à faire. Les Canucks là, ils font encore, puis ils se posent toujours des questions, pourquoi tu sais c'est difficile, puis pourquoi c'est compliqué, puis pourquoi ils ont toujours beaucoup plus de blessés que n'importe quelle autre équipe. Ben parce que des fois t'as beaucoup de voyagements, tu joues beaucoup en beaucoup de matchs en pas beaucoup de jours, et puis ça, tu sais, quand même tu regardes en dessous de chaque roche puis essayer d'améliorer chaque situation à chaque endroit. Il reste que la réalité c'est que c'est un sport qui joue de plus en plus vite, qui est toujours aussi physique, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment tu vas avoir des blessés là.
Écoute, un calendrier bizarre quand même là. Faut le mentionner. Là, le Canadien revient pour affronter Tampa Bay, repart affronter les Bruins à Boston jeudi, revient pour affronter Columbus, après quitte pour Buffalo et Philadelphie. Tu sais, le match contre Columbus samedi, là, je sais pas qui a eu l'idée de ça, mais il me semble qu'on aurait pu faire ça mieux là, d'un point de vue logistique. Là, on a un drôle de calendrier chez les Canadiens.
Mais ça, c'est le prix à payer, malheureusement, pour la semaine de congé.
Ah, là. Ben t'sais, voilà, on va aller dans le sud. Ben oui.
C'est justement.
Ben oui.
Puis honnêtement, moi, je me demande si on devrait pas revoir ça. Parce que je comprends que les joueurs aiment bien ça, d'avoir la pause à un moment donné.
Je pense qu'Antoine aime ça aussi.
Ouais, non, mais
moi, j'adore ça.
Tout le monde aime ça, là. On s'entend. Nous autres aussi, on aime ça. Mais le prix à payer.
Avec,
est tel...
avec le teint que tu as, d'après moi, t'as pas détesté aller dans le sud.
Pour ça que j'aime
non,
ça.
Non, mais ça, je l'ai déjà expliqué aussi. Là, moi, personnellement, ce qui est facile à changer, c'est enlève des matchs hors concours. Garde ta semaine de congé, enlève des matchs hors concours qui servent à rien, à part pour le Canadien qui vend quelques billets. Toutes les autres équipes aux États-Unis, ils les vendent pas ou presque ces billets, ils les donnent à leurs partisans. C'est du temps que tu perds dans ta saison. Cette semaine-là, tu serais capable assurément de raccourcir ton camp d'entraînement à la place de 3 semaines, qui soit 2 semaines. Les gars s'en arrivent tellement en forme. Donc, ça, pour moi, ça ferait une grosse différence d'essayer d'enlever ces semaines où tu as 4 matchs parce que c'est physiquement et mentalement, c'est exténuant.
OK. Tampa Bay, Boston, cette semaine, entre autres. Là, je parle pas de Columbus samedi. Tampa, Boston, Simon-Olivier, est-ce que c'est encore le festival de la varlope, selon toi?
Ben, ça n'en a quand même pas été une contre Tampa, en plus que Tampa
est à Tampa a joué une période, selon moi. Ouais, là, je trouve que Tampa a accéléré un peu en troisième de titre.
Puis Brian Elliott a été...
C'était Brian Elliott.
Ben, malgré que Brian Elliott a des très bonnes statistiques depuis qu'il était à Tampa. Là, on s'attend à ce que ce soit Vasilevski et Tampa qui... Tu sais, Tampa sont beaucoup de hauts et de bas. Ils ont perdu hier, je crois, contre les Devils. Exact. Ils ont de la misère à trouver leur air d'aller. Fait que les ingrédients sont là pour encore une varlope, comme tu le dis. Mais le Canadien était assez imprévisible, c'est-à-dire qu'on est passé directement du groupe combatif qui détrompe les sceptiques au groupe qui est arrivé au bout de ses ressources. Il faut savoir un peu c'est lequel qui va affronter le Lightning. Moi, je m'attends à ce que ce soit Jake Allen devant le filet. C'en est un qui a beaucoup à se faire, je sais pas si on peut dire pardonner, mais disons que je pense que c'en est un qui aurait avantage à finir la saison en force plus que ce qu'il a montré dans les derniers matchs.
Il l'a dit lui-même, là, après le match contre la Floride. Il doit être pas mal meilleur que ça.
Fait que je m'attends pas. Puis les Bruins aussi, récemment, depuis la date limite des transactions, les Bruins, on s'entend, ça reste une bonne équipe, mais ils n'ont pas encore trouvé non plus leur air d'aller. Ils ont fait beaucoup de changement dans la formation. Je suis plus curieux de l'identité des équipes qui vont visiter le Canadien. Est-ce que ça va être les équipes qui deviennent de plus en plus prêtes pour aller en série ou des équipes qui se cherchent encore? Puis je pense que le Canadien va préférer la deuxième option parce que le Lightning et les Bruins à 100% de leur capacité, je pense que ça va être des gros contrats.
S'il y a quelqu'un qui abandonnera pas, ça va être Martin Saint-Louis. Écoute, j'ai été impressionné l'autre fois. Dimanche, en fait, tout le monde revenait de Tampa, les membres des médias. Et lui aussi avait décidé de rester un petit peu. Donc, il attendait dans le terminal d'aéroport avec tout le monde. Là, il était comme caché dans son coin avec son ordinateur. Puis, à un moment donné, on s'est tous étiré le cou pour voir ce qu'il faisait. Puis, il est en train de regarder du vidéo de match. Alors, je pense que s'il y a quelqu'un qui abandonnera pas, lui, il va diriger cette équipe-là jusqu'au bout. Là.
OK, tu reviens sur Martin Saint-Louis. Antoine, je t'ai entendu dire tantôt que tu critiquais un peu la façon qu'il agit avec Jonathan Drouin. Et sa méthode de plan de match également, il y a quelques portions de son plan de match que tu n'aimes pas, Antoine?
En fait, j'aime pas la façon dont il joue en défensivement. Je trouve que c'est une équipe qui... ça explique, c'est une autre des raisons pour laquelle les gars ont plus de chances, sont plus propices de se blesser. Les joueurs en zone défensive sont trop passifs. C'est-à-dire, puis je m'explique, on coupe la ligne de shot des défenseurs, la ligne de tir, pardon, on reste devant. Mais on fonce jamais vers notre défenseur. Puis là, je parle du rôle des ailiers. Mais même chose pour les défenseurs ou joueurs de centre. On a trop tendance à être passif et d'être réactif à l'inverse de foncer vers le joueur, limiter son temps avec la rondelle, faire en sorte que il doit bouger la rondelle rapidement et éventuellement créer des revirements. C'est ça que tu fais quand tu es agressif. Le Canadien, c'est pas ça, pas en tout. On est passif, on attend, les ailiers ils attendent, on essaie vraiment d'être dans la ligne de shot. Donc là, ça fait en sorte que tu risques encore plus de te blesser parce que tu dois bloquer plus de lancers. Donc, et je les vois jamais les ailiers foncer à pleine vitesse sur les défenseurs pour limiter leur temps. Fait que ce que ça fait en plus de te faire bloquer plus de lancers, c'est que tu es toujours dans ta zone défensive en train de te défendre. Et donc, t'es propice à te blesser aussi dû à ça. Mais ça fait en sorte que t'as jamais la rondelle. Fait que des fois, les autres équipes adverses sont dans la zone, puis t'es là pendant une minute, là. Puis il se passe pas grand-chose, mais ça crée de la fatigue, selon moi, ça fait en sorte que ton match, tu le gères beaucoup moins bien, puis t'es pas une puissance quand tu joues de cette manière-là.
OK, t'es plus au dépens un peu de ce que l'équipe fait. Puis là, je suis en train de regarder les statistiques. Moi, je suis pas un grand fan de statistiques, là, mais quand je vois le différentiel à -64 chez les Canadiens, tu fais on. Les gardiens de but, c'est dur, puis des fois, défensivement, c'est pas facile. Moins 64, rendez-vous compte?
Ouais, ouais. Alors, c'est,
attends, c'est pas beau, là.
C'est pas beau. Écoute, on va mettre ça un petit peu sur le compte des blessés, peut-être un peu. Là.
Je fais, la jeune brigade défensive.
La jeune brigade, tout ça, mais ouais, c'est, ça doit absolument être resserré, ça, pour l'an prochain. Tu gagneras absolument, tu vas passer de 28e à 27e là, au classement général l'an prochain, si tu restes de même. On aime beaucoup, chez le Canadien, parler de progression, mais quand tu sors ce chiffre-là, c'est difficile de voir la progression. Là.
Ouais, très difficile. OK, en terminant, peut-être un petit mot sur... écoute, on se réjouit. Emile Heinemann est avec le Rocket. Écoute, Simon-Olivier, on attend un compte-rendu. Donc, Emile Heinemann avec le Rocket.
J'ai vidé mon agenda au complet ce matin quand oui. J'ai vu que c'était arrivé. Heinemann, il a fait une bonne impression au camp du Canadien. Même, il y en a qui se demandaient est-ce qu'il va réussir à décrocher un poste alors qu'il y avait quelque
qui
chose.
Qui ça? Qui ça se demandait ça? Non, on ne dit pas il y en a.
Des gens,
on va
y
avoir
des
noms.
Il y a des gens
en
général.
Disons, dans un
c'est sens. Le même que selon mes sources.
Okay,
c'est large.
Alors, je vais rephraser. Tu ne veux pas te choquer, Richard. Alors, dans la mesure où il y avait déjà à peu près 450 attaquants au camp du Canadien, on se doutait qu'il n'y avait pas de recrues qui allaient percer la formation, mais Emile Heinemann avait quand même fait très bonne impression, oh, au oui. Point où s'il n'y avait pas eu un surplus de vétérans, peut-être aurait-il pu commencer la saison à Montréal. Est-ce que c'est correct? C'est-tu correct?
C'est-tu
moins choquant? moi, en fait, je trouve ça positif de le voir avec le Rocket. J'ai quand même j'ai un questionnement et une réserve. Le questionnement, c'est j'ai pas compris pourquoi cette saison il n'est pas resté avec le Rocket. Je pense que c'est une question contractuelle. Les joueurs européens, Mathias Norlinder, t'es arrivé la même chose la saison passée. T'allais passer la saison en Suède. Je connais pas les détails de ces clauses-là, mais sans dire que c'est une saison perdue. Je comprends pas pourquoi des joueurs à ce stade-là de leur développement vont pas dans la Ligue américaine, surtout des Européens, que j'ai l'impression que tu les veux le plus vite possible en Amérique du Nord pour s'adapter. Il y a eu une saison assez timide en Europe, c'est à peu près un point par deux matchs, donc on verra ce que ça va donner. Avec le Rocket, j'ai pas beaucoup d'attentes dans la mesure où le Rocket est en pleine course pour les séries. Là où il peut y donner un coup de main, c'est que le Rocket a besoin d'attaquants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont utilisés en attaque présentement, mais si Heinemann, il y a une espèce d'adaptation à faire au jeu de la Ligue américaine qui est quand même beaucoup plus rude que ce qu'il joue en Europe, mais peut-être qu'il va faire beaucoup d'estrades, Heinemann aussi, comme Norlinder l'année passée, et comme peut-être Struble cette année, qui est dans un contexte différent parce qu'il connaît le hockey nord-américain, mais qui arrive de la NCAA. Le Rocket, présentement, veut se rendre aux séries éliminatoires. On n'est pas en mode expérience. Fait que si Heinemann n'est pas bon tout de suite, mais ça se pourrait que ce soit plus l'an prochain que le développement de ce niveau-là va vraiment se faire.
Et toi, Richard, as-tu préparé ton enregistreur pour les matchs du Rocket pour voir Heinemann?
Ben, mon enregistreur, non, mais
VHS?
Non, mon VHS est occupé présentement. Je suis en train de repasser les vieux matchs des Cowboys des années 90 me donner confiance.
OK, tu pleures.
Oui, pour me faire pleurer de temps en temps. Mais j'ai hâte de le voir pour de vrai parce que quand même, je me souviens quand il est arrivé ici, il y avait beaucoup de gens qui, je les nommerai pas, beaucoup de gens qui s'enthousiasmaient pour ce jeune homme. Alors, on va voir s'il va peut-être révolutionner le hockey. Qui sait? On sait jamais.
Antoine, je veux savoir, Simon-Olivier parlait de que c'est difficile des fois pour un joueur européen de s'adapter à la Ligue nationale de hockey. Comment tu vois ça, le jeune Heinemann qui arrive, qui s'en va dans la Ligue américaine après avoir passé une saison en Europe?
Ben, c'est sûr, c'est de l'adaptation. Je l'ai vécu, moi, quand j'ai déménagé au Québec, puis j'avais 16 ans, c'était pas le même niveau, c'était pas le professionnel, mais les plus petites patinoires, la rapidité d'exécution que tu dois avoir quand tu joues ici, comparativement en Europe, ben, c'est sûr qu'il y a de l'adaptation dans tout ça. Donc, c'est une bonne chose qui viennent s'adapter, puis qui puisse se remettre dans le bain du contexte ici. Puis ça va faire en sorte que dans le camp d'entraînement, ben il y aura encore moins de points d'interrogation, il sera davantage prêt, puis ça le rapproche tranquillement peut-être de son rêve de jouer dans la Ligue nationale.
OK, on s'arrête quelques instants. Pour retour, on va faire un petit saut de cette course aux séries dans l'Est. Pittsburgh, ça va pas bien au courant des derniers matchs. Ça va pas bien. Et je pense qu'on aurait besoin d'un bon gardien de but. Il me semble que des Pingouins, ça va pas bien devant le filet. On en parle au retour, restez là.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 50 avec Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange de la presse, Antoine Roussel qui est avec nous. Messieurs, je commence avec Richard. Les séries dans l'Est, les Penguins de Pittsburgh, 3 défaites de suite. D'ailleurs, une petite varlope de 6-0. J'ai l'impression que tout le monde mange une varlope une fois de temps en temps. J'aime dire le mot varlope.
C'est un beau mot.
Ça
beau
me donne l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Donc, défaite de 6-0 face aux Rangers. Comment tu vois les Penguins? Moi, je regarde devant le filet puis je me dis, là, ouais, c'est pas facile.
Il aurait dû aller chercher Matt Murray à la date limite.
Oh, quelle bonne idée. Tu devrais appliquer comme poste de directeur général.
Écoute, je suis le seul à avoir pensé ça, ça a l'air. Mais écoute, ça fait 2-3 ans que je me dis que les Pingouins sont en fin de cycle, et puis on s'accroche, puis on s'accroche, puis on s'accroche. Ben là, je pense qu'on est rendu là. Tu sais, ouais, à un moment donné, tu peux pas revenir en arrière. Le temps a raison de tous.
Ouais, ouais. OK. Ouais.
Voilà. Okay. Ça, c'est mon analyse profonde.
OK. C'est mon Olivier. Ben, ton point de vue sur les Pingouins.
Ben, on compose aussi avec des blessés. Il y a notamment Jeff Petrie qui joue quand même 22-23 minutes par match là-bas, qui n'a pas joué le dernier match. Danton Heinen, Jan Ruta. T'sais, c'est des joueurs réguliers, là. C'est pas au niveau de blessé du Canadien, mais c'est quand même des joueurs qui voient beaucoup de glace. Comme Richard, tu sais, les Pingouins, hein, ça fait longtemps qu'on se dit, ah, ben là, c'est fini l'espèce de dynastie, puis ils survivent toujours un peu. J'ai été très dubitatif devant les choix qu'ils ont fait cette saison, d'aller chercher Granlund, d'aller chercher Bonino, même Kulikov, tous des joueurs âgés. Les Pingouins sont rendus avec une moyenne en haut de 30 ans. Je pense que, tu sais, il y a des équipes expérimentées qui ont gagné la Coupe, c'est correct. Là, je suis pas nécessairement un ardent défenseur de la jeunesse à tout prix, mais c'est pas une formation très inspirante. Jeff Carter, ça marche pas du tout. C'est rendu le souffre-douleur des fans là-bas.
Ah, j'ai vu une séquence, là. On montrait une séquence sur Instagram où Carter ne prend pas son joueur devant le filet de son équipe.
Pas, ça
là.
Marche pas.
Écoute, c'est pas joli à regarder. Là.
Fait que c'est pas un club très bien construit. Puis comme tu disais, devant le filet, clairement, ça peut juste s'améliorer. Malgré que j'arrive, je pense qu'il y avait toujours joué le premier match l'année passée en série. C'était-tu lui qui s'était blessé ou c'était plus de Smith? En tout cas, ça avait pas été si mal que ça pour lui en série. Fait que peut-être qu'il va connaître un réveil, mais en tout cas, c'est pas. Tu sais, il y a le fameux cliché de piquer au bon moment. Disons que les Pingouins sont pas tout à fait dans ce bon moment-là. Il
faudrait que ça arrive.
Ouais, ça serait le temps, là.
Oui, Antoine, comment tu vois les Pingouins? Mais surtout, crois-tu que les Panthers de la Floride peuvent jouer un tour aux Pingouins et se glisser devant Pittsburgh avec 7 victoires, 2 défaites et 1 défaite en bris d'égalité au courant des 10 derniers matchs. Les Panthers s'en viennent, soufflent dans le dos des Pingouins.
Est-ce que je pense que ça peut arriver définitivement? J'aime le fait qu'on étire la sauce à Pittsburgh parce que on a encore des bons joueurs puis on veut étirer dans le fond cette plus ou moins dynastie-là de quelques années. Si on compare avec Chicago, tu sais, ils l'ont pas fait, puis ils en profitent pas nécessairement. Fait que j'aimerais ça qu'ils me donnent raison, puis ils se donnent raison d'essayer d'avoir continué dans cette veine-là, puis de justement pas avoir liquidé l'équipe. Mais c'est clair que la course pour les séries avec les Panthers est excitante, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est plaisant de se lever à chaque matin ou regarder ces matchs-là à chaque soir, de voir qu'est-ce qui va faire la différence. Est-ce qu'une défaite là ou un point ramassé en prolongation va faire la différence? S'il y a une équipe qui peut le faire en ce moment, ben c'est les Panthers parce qu'ils ont le vent dans les voiles. Puis il y a quelques semaines à peine, il y en avait 4-5 équipes qui étaient dans cette course-là. Et puis ben maintenant, ben c'est vraiment plus que les Panthers qui sont dans cette course-là parce que le Buffalo a pas été capable vraiment de soutenir cette pression-là puis d'être bon à chaque soir. C'est là que tu vois que les Panthers, il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là, des vétérans avec beaucoup d'expérience qui ont gagné pour certains la Coupe cette année. Donc ça fait en sorte que ça pousse dans la bonne direction, puis chaque personne doit bien connaître son rôle dans cette équipe-là. Donc c'est fort probable. Puis c'est juste de valeur que des fois moi je suis pour agrandir le format des séries éliminatoires pour qu'il y ait des matchs. Ce serait magnifique un match pour rentrer dans les séries, les Pingouins contre les Panthers. Juste celui qui reste debout, ben c'est lui qui rentre dans les séries. Je pense que ça serait phénoménal.
Un moment, quelque chose qui est important, les Panthers sont en santé. Simon-Olivier parlait des Pingouins avec les blessures, mais les Panthers, j'étais là.
Je pense que ça a changé quand Barkov est revenu au jeu. Là. On a l'impression que le club a complètement changé. Encore un point d'interrogation avec Bobrovski.
Duclair aussi revenu.
Mais Duclair, Barkov.
Duclair, et puis je parlais de Duclair à Paul Morris qui nous expliquer à quel point sa présence allait probablement aider beaucoup Barkov, justement, dans le dernier droit. Barkov a besoin d'un marqueur. Lui, c'en est un du clair. Donc, mais c'est vraiment la santé. Je pense que les Panthers, c'est vraiment une équipe qui, présentement, là, qui pointe vers le haut au bon moment.
Les Panthers aussi, en fait, moi, c'est pas une équipe que je trouve transcendante en général, mais il faut que je leur donne quelque chose. C'est la seule équipe qui a été, pardonnez-moi l'anglicisme, qui a été clutch cette saison. Vraiment, je suis complètement déçu de la non-course aux séries dans les deux associations. Les Sénateurs et les Sabres qui se sont effondrés. Les Sabres, c'est 9 défaites en 11 matchs. Les Sénateurs, c'est 6 défaites en 7 matchs. À un certain moment, avec tous les matchs qu'ils avaient en main, et les Islanders et les Pingouins qui allaient pas bien en même temps, c'était accessible pour eux. Puis ces deux équipes qui sont au cœur de longues construction, atteindre les séries aurait dû être complètement, ça aurait dû être frénétique là-bas. Je sais que les Sénateurs, devant le filet, ont perdu leurs deux gardiens momentanément. Fait que ça, c'est pas facile, mais surtout avec ce groupe de jeunes-là, je me serais attendu vraiment à ce qu'il se passe quelque chose à Ottawa, et c'est pas arrivé. Il y a juste les Panthers, littéralement, dans l'Est, qui ont pris la balle au bon. Et dans l'Ouest, ça se demandait si les Flames et Calgary veulent faire les séries en 2023, donc depuis le début de l'année. Ils ont seulement 3 séquences de 2 victoires de suite. C'est toujours une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Ils sont jamais capables de capitaliser, alors que les Jets de Winnipeg, qui ont la dernière place du 4e as, dans le fond, dans l'Ouest, ne réussissent pas à se distancer non plus. Fait que les Jets ne demandent qu'à être rejoints, puis les Flames ne prennent pas l'occasion qui se présente à eux. Donc, je trouve ça un peu plate, la course aux séries cette saison. Fait que merci aux Panthers.
Et pourtant, c'était en levant, et tu l'as dit.
Exact.
Les Sénateurs d'Ottawa, la date limite de transaction, souvenez-vous, Pierre Dorion dit je le devais aux joueurs.
Ouais.
On est allé chercher Chychrun, je le devais aux joueurs, puis après, blablabla.
Complètement, ils se sont effondrés.
Et là, pendant ce temps-là, est-ce que mathématiquement, le Canadien est éliminé? J'essaie de voir.
Ça ne sera pas long, mais
il y a encore des chances, là.
Ça va changer vite parce qu'ils sont à 18 points d'une place en série, puis ils restent.
Mais si toutes les équipes attrapent la COVID et déclarent forfait, le Canadien se faufile.
Non, mais
j'essaie de trouver. J'essaie d'être optimiste. Là,
on l'a perdu.
Arrête de me.
Il est complètement perdu. Antoine, je te remercie énormément d'avoir été avec nous. Et puis, vivons pleinement cette course aux séries dans l'Est avec les Panthers et les Pingouins et les Islanders qui ont quand même une petite avance. Là. Mais gros merci d'avoir été avec nous, Antoine.
Merci, gang.
Merci énormément. Richard Labbé, l'homme au coup de soleil.
Oui, faut plus ça va très bien. Arrête de dire ça.
La Floride, c'est le fun de la Floride?
Ça va très bien.
Oui,
ça faisait chaud. Ça va très bien.
OK. C'est une autre question.
Ça va très bien. Il y avait des palmiers. Savais-tu que c'est bon pour le moral des gens, ça?
Ah oui. Ouais.
Si on avait
juste la chaleur.
Si on avait ça ici à Montréal, là, on s'en porterait mieux.
Oui. Ouais. OK. Ouais. Simon-Olivier, ça, c'est ton collègue, juste à dire.
Je sais, Jérémy. Je veux pas qu'on parle de ça.
T'es fait fort. Merci beaucoup, Simon-Olivier.
Merci à toi.
Voilà ce qui conclut le balado sortie de zone, épisode 50. On se parle vendredi prochain.